RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau point sur l'actualité africaine avec vous, Vincent Dublange. À la une, la situation à Goma.
Sans électricité, sans eau courante pour beaucoup, les habitants subissent la guerre et cette offensive du M23 qui encercle la grande ville de l'Est congolais. Nouveau combat signalé ce matin, le Conseil de sécurité de l'ONU se saisit du dossier aujourd'hui. Kinshasa rompt ses relations diplomatiques avec Kigali. RFI a rencontré l'homme qui fera se parler ces prochains mois, le Ghana et les trois états de l'AES, l'envoyé spécial du président Mahama. Les défenseurs des droits humains sénégalais qui demandent à ce qu'enfin leur pays applique ce pour quoi il s'est engagé il y a maintenant 2 décennies au niveau international, autoriser l'avortement en cas de viol. Et puis notre dossier sur le twist africain, genre musical développé dans les années de l'indépendance au Kenya et sur lequel revient en ce moment une pièce de théâtre à Nairobi.
En République démocratique du Congo, il y a des combats ce matin aux alentours de Kibumba sur ce que l'on peut appeler le front nord de Goma.
Oui, une zone plutôt calme hier. Hier, c'était plutôt le front ouest autour de la localité stratégique de Sake qui était le théâtre d'affrontement entre le M23, son allié rwandais et l'armée congolaise et ses soutiens, des milices, les forces de la sous-région d'Afrique australe et les casques bleus, la MONUSCO. Ces deux dernières, d'ailleurs, ont perdu des hommes, 13 morts en tout dans leur rang, 9 Sud-Africains, 3 Malawites et un Uruguayen. Le Conseil de sécurité de l'ONU, je vous le disais, se penche finalement dès aujourd'hui sur le dossier, réunion avancée donc de 24 heures. La République démocratique du Congo, elle, apporte 2 réponses militaires et diplomatiques à cette offensive du M23. Les autorités faisaient le point hier et vous y étiez, Patient Ligodi.
Le général Sylvain Ekenge a annoncé que le gouvernement militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a été abattu par un sniper de l'armée rwandaise alors qu'il accompagnait le commandant de la 34e région militaire pour galvaniser les troupes à Mubambiro près de la cité de Sake. Un de ses gardes du corps a également été tué tandis que 2 autres ont été blessés mais sont hors de danger. Concernant la situation sur le terrain, le porte-parole des forces armées de la RDC a indiqué que les combats autour de Goma se poursuivent. Avec l'appui de la MONUSCO et des troupes de la SADC, le FARDC ont réussi à stopper, a-t-il dit, l'avancée des forces rwandaises et du M23 tout en affirmant que le FARDC ne les laisseront pas entrer à Goma. Dans le sud Kivu, les combattants du M23, a-t-il dit, ont tenté de progresser vers Niamibwe à environ 100 km de Goma mais ont été stoppés. Toujours selon le général Ekenge, les opérations se poursuivent. Face à l'ultimatum de 48 heures donné par le M23 au FARDC, le général a répondu avec fermeté, c'est maintenant que la guerre commence. Enfin, sur le plan diplomatique, le ministère congolais des Affaires étrangères a annoncé le rappel de ses diplomates basés à Kigali avec effet. Il demande aux autorités rwandaises compétentes de tirer toutes les conséquences de cette décision en cessant, dans un délai de 48 heures, toutes les activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
L'Union européenne, de son côté, a une nouvelle fois appelé le M23 à arrêter son avancée et le Rwanda à se retirer immédiatement. Le président français a appelé séparément ses homologues congolais et rwandais. L'Union africaine a également réagi ce samedi, elle exhorte à la cessation immédiate des combats et réclame la stricte observation du cessez-le-feu convenu entre les parties, mais sans mentionner ni le M23 ni le Rwanda, ce qui a passablement agacé Kinshasa. Du côté de Kigali, le porte-parole adjoint du gouvernement n'est lui pas satisfait des prises de position de l'ONU et de l'Union européenne. Elle ne dénonce pas assez, selon lui, l'association sur le terrain de l'armée congolaise avec le groupe armé FDLR fondé à l'origine il y a près de 30 ans par d'anciens génocidaires Hutus. Le terrain et la vie très difficile à Goma. La ville compte 2 millions d'habitants, résidents habituels ou déplacés internes. Il n'y a plus d'électricité sur place et d'importantes coupures de l'eau courante. On est en direct de Kinshasa dans le prochain journal sur Radio France Internationale.
Accra, 89.5 FM.
Le rapprochement du Ghana avec les États dirigés par des putschistes.
Singulièrement ceux de l'Alliance des États du Sahel qui quitte officiellement la CDAO ce mercredi. CDAO dont le Ghana est membre. Le nouveau président John Dramani Mahama a choisi de parler avec tout le monde et même d'affermir les liens. Il y a quelques jours, le premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, était à Accra. Dans la foulée, les autorités ghanéennes ont nommé un envoyé spécial, donc auprès de l'AES, Mali, Burkina, Niger. Une mission confiée à Larry Bevlo Larte, ancien haut gradé de l'armée, qui fut chargé aussi de la lutte antiterroriste au sein de l'Union africaine. RFI l'a rencontré en exclusivité à Accra, entretien avec notre correspondant Victor Cariou.
Renforcer la coopération entre le Ghana et les pays de l'Alliance des États du Sahel afin de développer des politiques communes sur la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire ou encore la libre circulation des biens et des personnes. Voici le mandat qui a été confié à Larry Bevlo-Larté, envoyé spécial du président John Dramani Mahama auprès de l'AES.
Ces dernières années, cette relation n'a pas été au beau fixe. Nous voulons donc réaccélérer cette coopération. Il ne s'agit pas tant d'établir des accords internationaux ou des choses comme ça.
Une mission purement ghanéenne, totalement décorrélée de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont la sortie officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger sera actée ce mercredi 29 janvier. Larry Bevlo-Larté l'assure, la question de la réintégration de ces États dans l'organisation régionale ne figure même pas dans sa fiche de poste.
Ce sont des décisions souveraines que le Burkina Faso, le Mali et le Niger auront à prendre, mais le Ghana ne doit pas se mêler de leur choix. Ce n'est pas du tout une priorité pour nous.
Premier chantier de l'envoyé spécial auprès des États de l'AES, faciliter l'accès du port ghanéen de Tema pour ses partenaires enclavés. Victor Cariou, Accra, RFI.
L'ONU nomme une envoyée spéciale pour la Libye.
Oui, c'est une diplomate ghanéenne, Julien, qui obtient le difficile poste, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Anna Serwa-Tete. Elle est la 7e diplomate à occuper ce poste sensible. Elle succède au Sénégalais Abdoulaye Batili, qui a jeté l'éponge en avril dernier pour Hasni Abidi, directeur au Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. La tâche de cette nouvelle émissaire s'annonce complexe, mais il estime que l'élection de Donald Trump aux États-Unis pourrait faciliter les médiations à venir.
C'est une mission compliquée et très délicate qui attend la nouvelle représentante et la chef de mission des Nations Unies en Libye, Madame Tété. C'est vrai qu'elle connaît très bien l'Afrique, mais cette mission exige d'autres compétences et notamment l'appui des grandes puissances internationales. L'avantage de cette nomination, c'est qu'elle intervient dans un vide total. Un point probablement qui est nouveau, c'est que la nomination de Madame Tité coïncide avec l'arrivée de président Trump. Et on sait que probablement la Libye est le seul État en Afrique du Nord et au Sahel qui va susciter l'intérêt parce que les Russes ne sont pas loin et parce que aussi il y a des intérêts géopolitiques et surtout économiques. Probablement avec le président Trump et la nomination d'un nouvel ambassadeur, les choses peuvent avancer. Il faut jamais oublier qu'un des protagonistes, le maréchal Haftar, est détenteur d'un passeport américain.
Des propos recueillis par Guillaume Thibault.
Au Sénégal, chaque année, plus de 30 000 femmes risquent leur vie en avortant clandestinement. C'est l'une des principales causes de décès maternel.
Alors que cela fait 21 ans que le pays a ratifié l'accord de Maputo, un protocole qui autorise l'avortement en cas d'inceste et de viol, les organisations de la société civile sénégalaise appellent les nouvelles autorités à respecter leurs engagements internationaux, car au Sénégal, l'IVG est toujours interdite en cas de viol. Oulimata Sen coordonne les activités de l'association des juristes sénégalaises.
On a recensé dans cette année 88 cas de viol sur mineurs. On demande de respecter l'article 14 du protocole de Maputo qui dit qu'en cas de viol et d'inceste, on doit autoriser l'avortement médicalisé. Ce qui n'est pas le cas en ce moment parce qu'on a tous les jours des cas de viol. Et récemment, on a un cas d'une fille de 4 ans qui a été violée, dont on a demandé à l'AGS de fournir un appui psychologique pour pouvoir suivre cet enfant. Et aussi l'autre exemple, la fille de 9 ans qui a été violée et qui est enceinte maintenant. Alors face à tous ces cas de viol, l'urgence est de travailler en synergie. L'État, c'est une continuité. Mais on doit aussi le sensibiliser, lui dire qu'il y a un protocole qui a été signé en 2004 par l'État du Sénégal sans réserve. Dans ce protocole-là, il y a un article 14 qui dit qu'en cas de viol et d'inceste, on doit autoriser l'avortement médicalisé.
Oulimata Sen de l'Association des juristes sénégalaises au micro RFI Dakar de Léa Lisa Vesterhoff.
Donald Trump l'avait acté dans un décret juste après son investiture. C'est effectif depuis 24 heures. Les États-Unis mettent en pause leur aide étrangère pendant 90 jours.
Sauf pour Israël et l'Égypte, le temps d'évaluer si les programmes d'aide américains sont conformes avec la politique qu'entend mener la nouvelle administration. Cette annonce est une menace forcément pour une série de programmes d'aide en Afrique. Le spécialiste des enjeux de développement Fabrice Ferrier rappelle ce chiffre. Près de 25%, un quart de l'aide américaine, soit 17 milliards 400 millions d'euros en 2023, est dirigée vers le continent africain.
L'aide américaine se concentre tout particulièrement sur le continent africain et les États-Unis sont le premier bailleur auprès de l'ensemble des pays du continent africain. Donc, ce qui peut être menacé, c'est d'une part l'accès à la santé. Les États-Unis financent des grands programmes et organisations en matière de de santé, donc tout particulièrement la Gavi, qui est l'alliance du vaccin, qui finance l'accès à la vaccination d'un enfant sur deux dans le monde. Les États-Unis financent également des programmes en matière d'égalité femmes-hommes et les politiques d'accès à la contraception. Il s'avère que durant la campagne présidentielle, les équipes de Donald Trump envisageaient de réactiver une procédure qu'on appelle le Global Gag Rule, ou règle du bâillon mondial, qui interdit le financement public d'organisations finançant des soins ou des informations liées à l'avortement et à la santé sexuelle. Alors, dans la mesure où les États-Unis financent l'accès à la contraception dans le monde, puis avoir un impact colossal pour des millions de femmes, tout particulièrement sur le continent africain.
Fabrice Ferrier, directeur de Focus 2030, un cercle de réflexion spécialisé dans les enjeux de développement, interrogé par Nicolas Feldman.
Et puis Vincent, notre dossier en mode flashback, un retour en arrière musical dans les années de l'indépendance du Kenya.
Un homme, Jomo Kenyatta, devenait le visage de ce Kenya, une musique en devenait la bande-son, le twist, et oui, c'était les années 60, on twistait en Europe, bien sûr, mais aussi dans un style forcément revisité au goût local, à Nairobi, et c'est tout l'objet d'African Twist, pièce de théâtre jouée en ce moment à l'Alliance française de la capitale kényane. Alban Tiroir, 3, 2, 1.
La pièce est rythmée par des chansons de twist africain, ce genre musical qui mélange twist classique avec des airs de kwela sud-africain. Sur scène, entre deux dialogues, les acteurs chantent, dansent et racontent la vie dans les années 60 au Kenya en mélangeant divertissement et références historiques. Paul Kalemba, auteur de la pièce.
L'objectif, c'est que les personnes les plus âgées en ressortent avec un sentiment de nostalgie. Pour les générations plus jeunes, j'espère qu'elles sortiront de la représentation en se disant « Waouh, les années 60 étaient dynamique, nous n'avons pas inventé la musique. En fait, nous voulons créer un pont entre le passé et le présent. Nous ne demandons pas à la génération actuelle de jouer de la musique des années 60, mais nous espérons l'inspirer. »
Une inspiration qui a déjà commencé au sein même de la troupe, c'est le cas pour Ojwang Eero. Il joue le rôle de Daoudi Kabaka, un des musiciens pionniers du twist africain.
Je suis moi-même musicien et je joue des genres assez similaires. J'ai beaucoup lu sur le twist africain, j'en ai beaucoup écouté et ça m'inspire beaucoup. Des artistes comme Daoudi Kabaka ou Fadili Williams, par exemple, ont fait de moi le musicien que je suis aujourd'hui.
Au-delà de la musique, la pièce évoque aussi la situation politique de l'époque. L'indépendance du Kenya en 1963 ou encore les assassinats de figures politiques comme Fiogama Pinto. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et c'est par l'association Ketable Music qu'est née cette pièce de théâtre. Cette association recherche et documente les genres musicaux qui ont rythmé l'histoire du Kenya au cours des 6 dernières décennies. Et cette histoire-là, du twist kenyan que l'on vient de vous raconter, du twist africain, elle est très peu connue des jeunes Kenyans. Tabou Osusa est le directeur de Ketable Music.
Ce sont deux Zambiens qui sont venus au Kenya à cette époque, Nashil Pitchen et Peter Tsos, et qui ensemble, avec un producteur de musique britannique, ont mis au point ce genre différent, chanté principalement par Daoudi Kabaka, Fadili Williams ou encore John Nzenze. Ce sont les pionniers du twist africain. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Je ne suis pas sûr que ce twist africain ait été populaire à travers tout le continent. Non, mais ce qui est certain, c'est que c'était très très populaire en Afrique de l'Est durant toute la période pré- et post-indépendance. C'était un genre musical qui symbolisait l'espoir. À l'indépendance, les Kenyans étaient pleins d'optimisme. Les colons étaient partis, un nouveau pays naissait, mais petit à petit, les politiques ont commencé à décevoir la population. L'idée d'une terre promise s'est effacée et avec elle, le twist.
Un dossier coordonné à Nairobi par notre correspondante, et on la remercie, Alban Tiroir. Et c'est sur ce que je vous laisse en compagnie de Julien Coquelrouem.
Merci Vincent Dublanche, à tout à l'heure.